Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine sur la RAM qui sera consacré aujourd'hui à Énergie Collective. Alors Énergie Collective, c'est une société coopérative d'intérêt collectif. Et Jackie Oudouin, bonjour.
Bonjour.
Vous faites partie du CA d'Énergie Collective. Alors cette coopérative a pour objectif de reprendre la main, reprendre part dans le débat et la production d'énergie au niveau local. D'où est né ce besoin ?
Bah, elle est née d'un certain état d'esprit, d'une ambiance, de questionnement qu'un noyau de la population de Lambrunet avait et qui était déjà porté par une association qui s'appelait Essentiel, qui organisait des soirées pour sensibiliser sur différents aspects de nos besoins, on va dire. Et puis il a été créé une association de préfiguration par quatre personnes. Avant de pouvoir transformer cette association dans la forme juridique que la coopérative a maintenant, donc une SIC sous la forme d'une société par action simplifiée. Voilà, donc ça correspondait à l'ère du temps, ça correspondait à des volontés de certains individus, et puis ça semblait aussi correspondre quand même à un bassin de population assez signifiant en la matière.
Alors pourquoi est-ce que c'est important pour vous de produire des énergies alternatives, puisque en fait Énergie Collective s'est engagée dans la production d'énergie solaire. Pourquoi est-ce que c'est important de produire de l'énergie autrement que par du nucléaire, par exemple ?
Alors ça, c'est une très bonne question, parce que c'est vrai que pour l'instant, la vitrine un peu d'Énergie Collective, c'est effectivement de la production. Mais c'est pas pour dire que c'est important de produire avant tout localement des énergies renouvelables. C'est dans un mouvement global, dans une réflexion globale qui est basée sur plusieurs piliers, un peu à l'instar du scénario négawatt que certains connaissent bien maintenant. C'est-à-dire qu'il y a en gros trois piliers pour pouvoir participer à cette transition énergétique dont on parle beaucoup. C'est d'abord de la sobriété, parce qu'on peut vraiment consommer beaucoup moins et beaucoup moins inutilement. Il y a un deuxième pilier qui est l'efficacité énergétique. On parle beaucoup de la rénovation thermique des bâtiments, mais il y a très peu de moyens qui y sont consacrés. Les retours sur investissement sont très longs, donc peu de citoyens s'y mettent encore. Certaines collectivités s'y mettent progressivement. Il y a des exemples, y compris dans cette région. Et le troisième pilier, c'est la production d'énergie renouvelable, parce que bien sûr que on n'arrivera pas par l'efficacité et la sobriété à réduire complètement notre consommation. On a des besoins, il ne s'agit pas de revenir totalement en arrière. Donc on peut continuer à avoir une qualité de vie et un confort de vie, mais il faut aussi qu'on réoriente complètement la façon de fabriquer cette énergie, et en tout cas en matière d'électricité pour l'instant. Enfin, pour l'instant, tout se fait en même temps, mais je veux dire, au niveau d'Énergie Collective, on est parti là-dessus. Pourquoi on produit ? Parce que il nous faut aussi un modèle économique. On est passé d'une association à but non lucratif à une coopérative qui devient une entreprise, qui a des besoins, qui a à faire face à des dépenses, et ces dépenses sont pas forcément couvertes uniquement par des cotisations ou par des parts de capital. Et donc, il faut qu'on arrive à un modèle économique pour qu'un jour, toute cette masse de travail de bénévoles soit non pas remplacée, mais appuyée par au moins un temps de salariés. Et il n'y a que comme ça qu'on y arrivera, parce que c'est pas les actions de sensibilisation ou de communication qui vont apporter des moyens pour pouvoir embaucher quelqu'un.
Donc vous l'avez dit, Énergie Collective fonctionne aujourd'hui seulement avec des bénévoles. Vous êtes donc une quinzaine de bénévoles actifs régulièrement pour mener tous ces chantiers, ces études, ces recherches pour installer des panneaux notamment. Et il y a également des coopérateurs qui ont des parts dans la société. Il y a combien de coopérateurs aujourd'hui ?
À l'heure actuelle, on a dépassé les 180. On aimerait bien que ça continue à grossir un peu, que la famille s'agrandisse, que chaque coopérateur puisse amener quelqu'un d'autre. Voilà, si on était le double, je pense que ce serait un petit peu plus confortable pour pouvoir faire face à nos investissements et avoir un peu moins d'affres de trésorerie à certains moments, parce que quand on lance des chantiers d'installation de toitures photovoltaïques, ne serait-ce que pour pouvoir emprunter, il faut avoir 20% d'apport, donc c'est assez important à ce niveau-là. Donc on est effectivement un peu plus d'une dizaine dizaine qui sont très investis. Depuis le départ, il y a entre 10 et 15 personnes. Les premiers mois, on se réunissait toutes les semaines, tous les mercredis soirs. C'était un rythme un peu de folie. On a réussi à contenir un peu ça et maintenant, on se voit tous les 15 jours. Mais c'est à ce prix-là, avec cette énergie humaine qui, elle, heureusement, est très renouvelable, qu'on arrive à faire face, qu'on fait tout nous-mêmes. On s'appuie sur des entreprises qui posent les toitures photovoltaïques, mais c'est nous qui réalisons effectivement toutes les études de A jusqu'à Z. Et ben on a un peu des financiers, un peu des ingénieurs, un peu des spécialistes qui ont travaillé en bureau d'études et additionné. Il y a personne qui a toutes les compétences, mais additionné, on arrive à avoir une somme de compétences qui est très intéressante et qui fait que on arrive à traverser toutes ces périodes de façon assez heureuse sur le plan personnel.
Alors, la coopérative Énergie Collective a été créée le 22 janvier 2016, juste après l'association qui était prévue à la base. Comment ça se passe concrètement, le cycle pour installer une centrale photovoltaïque? Comment est-ce que vous faites? Vous démarchez des gens, c'est des gens qui viennent vous proposer, ensuite il faut réaliser des études. Concrètement, comment ça se passe?
Alors c'est un cycle un peu long, un peu à obstacle, parce qu'il y a pas mal de surprises. Il y a des gens qui ont de la très bonne volonté, qui sont de nos coopérateurs déjà par exemple, et puis qui ont une toiture pas forcément bien orienté, mais ça pourrait faire. Et puis on découvre que en fait la couverture est en amiante, donc ça devient impossible de travailler dessus pour une entreprise. Il faut désamianter, ça coûte très cher. C'est pas Énergie Collective qui va prendre en charge cette phase de travaux sur le plan financier. On a des gens qui nous proposent des toitures comme ça au gré des rencontres à la foire bio d'Embrun ou quand on fait un stand comme à la Biocoop l'année dernière, etc. ou dans nos réunions de coopérateurs qui sont ouvertes aux amis des coopérateurs. Il y a des collectivités aussi qui nous ont fait confiance assez rapidement. Donc il y a déjà des toitures photovoltaïques qui sont installées sur le toit de la mairie de Puissanière par exemple, où là depuis cette année, deux sur la commune de Baratier sur des toitures publiques. Mais il y a un grand nombre d'étapes à franchir, et à franchir positivement, parce que sinon il y en a qui sont très rédhibitoires. Donc il faut déjà étudier, on étudie par nous-mêmes grâce à un logiciel spécifique, on étudie ce qu'on appelle le productible, c'est-à-dire le potentiel de production de cette toiture, la taille qu'on va pouvoir dimensionner sur ce toit-là, parce qu'il nous faut à peu près une toiture libre de toute gêne de 40 à 50 mètres carrés, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des cheminées mal placées, il ne faut pas qu'il y ait des Velux, il ne faut pas qu'il y ait des aérateurs, des choses comme ça, donc il faut déjà étudier tout ça. Il y a une sorte de première sélection qui se fait, malgré cette première sélection, il y en a encore qui vont être éliminés au fur et à mesure de nos études, parce qu'il faut également que financièrement, chaque investissement soit équilibré, on va dire, c'est-à-dire rentable, c'est pas le mot, on n'est pas une entreprise à but lucratif, on n'est pas là pour faire de l'argent. On est là pour ne pas en perdre et pour pouvoir réinvestir avec ce qu'on va dégager de marge sur ce qu'on a déjà réalisé. Donc ça commence à exister à ce niveau-là, donc c'est déjà un petit peu plus facile, mais il y a plein de toitures qui nous sont proposées qu'on n'arrive pas à réaliser. Et on a pris plus de temps qu'on a imaginé pour réaliser. Pas à cause de nous, on s'est investi très fort, on y met un temps fou, mais on a beaucoup de temps perdu, entre guillemets. Il n'est pas totalement perdu parce qu'il est très formateur, on apprend énormément. On est un groupe qui a appris énormément, qui est monté en capacité de compétences, et ça n'a pas de prix. Mais c'est pas ça qui fait tourner financièrement la coopérative. On a des échéances, on a déjà un prêt sur le dos, un deuxième qu'on a pris cette année. C'est pas pour dire on s'est trop chargé, non, mais il faut faire face. On a ce qui s'appelle la responsabilité. On peut pas créer une entreprise et ne pas assumer après les responsabilités que ça entraîne.
Alors vos toitures aujourd'hui elles sont au nombre de 7 qui ont été installées dans l'Embrunet et le Savinois. Qu'est-ce que devient l'électricité qui est produite avec ces panneaux? Vous la revendez à EDF?
Alors ça, c'est aussi une question très intéressante qui triture un peu tout le monde. Alors effectivement, c'est mis dans le réseau. Alors pour nous, c'est un atout, le réseau. On a la chance en France d'avoir un maillage extraordinaire. donc qui permet de se raccorder à peu près partout, parce que dans les conditions pour mettre en service une toiture photovoltaïque, il faut aussi qu'elle soit proche de ce qu'on appelle un poste source, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas des surcoûts pour acheminer cette production vers un poste de distribution. Donc à ce niveau-là, c'est un avantage donc d'avoir un réseau qui est très bien maillé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'électron, lui, il est, comme on dit, très feignant. On dit ça souvent dans nos milieux. C'est qu'en fait, là où il est produit, si quelqu'un a un ordinateur d'allumé, met les lumières en route chez lui, eh bien l'électron, il va filer directement au plus près. Donc en fait, il va pas aller repartir dans la vallée du Rhône et revenir à travers les réseaux de haute tension, etc. Ça passe vraiment le plus localement possible. Il y a toujours un besoin sur une toiture. Il suffit d'être dans un quartier et c'est tout le quartier qui va en bénéficier instantanément quand on ne va pas être sous la pluie.
Voilà, donc l'énergie produite bénéficie localement et elle est revendue.
Alors elle est revendue à EDF obligation d'achat, mais pas que, parce que ça c'est ce qu'on fait au premier raccordement, parce que pour l'instant ça se fait directement comme ça. Et par exemple au 1er janvier 2018, la toiture qu'on avait installée sur l'entreprise Ecodescope dans la zone de Pralong, d'Embrun, eh bien on a transféré le contrat sur Enercoop, qui est une coopérative de citoyens, donc Enercoop PACA, une coopérative régionale qui revend de l'énergie verte garantie, et notamment avec les productions qui lui sont fournies de cette manière, soit en investissement direct, soit à travers des coopératives comme la nôtre. Et ça, de ce mouvement, il devrait continuer, c'est-à-dire qu'Enercoop va être autorisé à accéder à de nouvelles sources de production, et c'est possible qu'Énergie Collective raccorde d'autres toitures, deux ou trois toitures encore, à Enercoop. Voilà, donc ça, on arrive là pour l'instant à un équilibre. Et pour nous, c'est la moins mauvaise solution de procéder comme ça.
D'accord. Donc le choix d'Énergie Collective dans cette ambiance de transition énergétique, c'est de produire de l'énergie locale renouvelable. Aujourd'hui, c'est avec des panneaux photovoltaïques. Pourquoi ce choix de panneaux photovoltaïques et pas d'autres énergies renouvelables ?
Bon, certains diront que c'est la facilité, mais c'est pas si facile que ça en fait. Non, c'est-à-dire que c'est un moyen d'accéder assez rapidement. C'est-à-dire qu'avec des études moins lourdes, avec pas d'études d'impact sur l'environnement, par exemple, comme avec l'hydraulique, de pouvoir commencer à engranger, mais pas si rapidement que ça, parce que EDF obligation d'achat, on ne peut facturer la production qu'au bout de 12 mois pour chaque toiture, c'est-à-dire que c'est même pas à l'année civile. Chaque toiture va être mise en service à des dates différentes. Chaque 12 mois anniversaire après la mise en service de chacune des centrales, donc avec des dates complètement décalées, on pourra facturer ce qu'on a produit à EDF qui va nous le payer quand même assez rapidement, heureusement. Voilà, donc ça nécessite quand même d'avoir de la trésorerie un peu au départ, grâce au capital qu'on a pu recueillir auprès de tous ces souscripteurs, mais aussi d'une gestion d'emprunt, etc. Donc ça, c'est une gymnastique qui est déjà pas simple, mais c'est ce qu'il y a de plus aisé à mettre en place, parce que la micro-hydraulique, ça va prendre des années, avec des risques de recours, de nuisances à l'environnement, la découverte d'une espèce endémique, etc. Donc c'est pouvoir, une fois que la coopérative s'est créée, et donc à ce moment-là, elle devient une entreprise, c'est de pouvoir commencer, pas à 12 mois, mais parce qu'il y a 7-8 mois d'études, plus 12 mois, donc dans un délai de 2 ans, commencer à avoir des recettes pour payer des factures de communication, en tout genre, comme toute entreprise peut avoir, alors qu'on a, on n'a pas de charges fixes, vraiment.
Oh libellule si délicate, oh les mésanges petites pattes, gentil coquelicot, pardon chardon, et le noble ver de terre, pardon, le jour se rêve dans nos bépines, les enfants. Chevreuil lancé au-dessus des fleurs, chaude perdrix au tout petit cœur, et que écureuil renard. Pardon vipère, pardon la pluie, pardon la terre. Le jour se rêve dans la nature. Les enfants, le vent les aime. Le vent les aime.
Alain Souchon, à l'instant sur la rame dans ce mag consacré à énergie collective, nous recevons Jackie Houdouin, membre du conseil d'administration. Alors vous installez des panneaux photovoltaïques, mais est-ce que c'est propre à la conception? Est-ce que c'est recyclable des panneaux solaires?
Alors c'est relativement propre, hein. J'ai entendu il y a pas longtemps quelqu'un qui disait mais est-ce que le public se pose la question quand on met un frigo dans une ressourcerie, enfin pas dans une ressourcerie, ouais si dans une ressourcerie, voilà, qu'est-ce qui est recyclé dans un frigo, qu'est-ce qui est recyclé dans n'importe quelle chose dont on va se débarrasser. C'est pas pour dire le photovoltaïque est mieux, mais il se trouve quand même que les panneaux photovoltaïques à 90% c'est composé de verre, c'est du silicium, donc c'est, on va dire, c'est du sable. Et ce silicium, il est recyclable. On peut le refondre, on peut en refaire du verre. Après ça, qu'est-ce qu'il y a dans des panneaux? Eh ben, il y a du fer, du métal, il y a de l'aluminium, il y a de l'argent. Et ça intéresse aussi les recycleurs. Et il y a, contrairement à ce qu'on dit, il n'y a pas de terre rare. Il n'y a pas du tout de terre rare dans un panneau photovoltaïque. Alors, jusqu'à présent, les filières de recyclage de panneaux photovoltaïques n'existaient pas en France. Il fallait envoyer ça en Belgique. Mais pour tous les panneaux européens, il y a une contribution à une taxe pour financer cette filière de recyclage. Et puis, bonne nouvelle, depuis le mois de juin, il y a la société Veolia qui a ouvert une usine de recyclage des panneaux photovoltaïques dans les Bouches-du-Rhône. Voilà, donc on a hâte d'aller pouvoir faire une visite de cette usine. Je lance un appel à Veolia, mais c'est un peu une boutade, mais c'est vrai que ça va nous intéresser de connaître très très bien les acheminements. Ceci dit, j'ai pas répondu complètement à votre question. Pour toute activité humaine, pour toute fabrication, il y a effectivement un poids sur l'environnement, une énergie grise qui est consommée au départ, mais c'est sur le photovoltaïque qui en a quasiment le moins en matière de production énergétique. On considère, bon, c'est pas facile à calculer, mais la conception des panneaux photovoltaïques, le transport, enfin tout ce qui nécessite sa fabrication, c'est entre un an et demi à deux ans et demi de ce que le panneau va produire. Donc je ne sais pas si le citoyen, il se pose la question sur beaucoup d'autres sources d'énergie et à plus forte raison sur le nucléaire dont on ne sait toujours pas quoi faire des déchets et dont on ne saura jamais quoi faire des déchets sinon les stocker et les regarder.
Donc au bout de deux ans, le coût énergétique de production d'un panneau photovoltaïque est remboursé et ensuite il commence à produire.
Voilà. Alors c'est même pas une histoire de remboursement, c'est une histoire d'équivalence, on va dire, hein, parce que nous on cherche là, à travers ça, il n'y a pas un remboursement, mais c'est le poids dans la balance. Si vous prenez une balance à deux plateaux, et ben au bout de deux ans, le plateau de la fabrication, il ne pèse plus, et après les panneaux vont produire et suffisamment longtemps. Pourquoi il n'y a pas de filière encore en France ? Ben tout simplement parce que les panneaux ont une telle durée de vie. Il y a beaucoup de panneaux qui ont 40 ans en France qui continuent à fonctionner et qui continuent à fonctionner très très bien, notamment dans des refuges, des sites. Bah, les retours sur investissement, ils sont de plus en plus longs, on va dire, mais je veux dire de l'ordre de 8, 10, 12 ans, hein, selon la puissance des installations, parce que il y a des coûts fixes qui sont les mêmes sur une petite toiture de 50 mètres carrés que sur une installation de 200 mètres carrés. Donc, les retours sur investissement, et selon l'orientation, selon la pente du toit, on a des retours qui sont différents. Mais on peut dire une dizaine d'années, il y a un retour sur investissement, donc ça va fonctionner encore très longtemps. Alors, tout de suite, une question. Peut-être que vous alliez la poser, mais ça perd 1% par an de potentiel. Mais donc, ça veut dire qu'au bout de 20 ans, on a perdu 20% du potentiel, mais les panneaux sont de plus en plus performants, de plus en plus fiables, et ils sont garantis avec 85% de potentiel de production encore au bout de 20 ans par les fabricants. Donc, avant d'en être à des critiques à ce niveau-là, je pense que voyons ce qui est vraiment fiable et prouvé.
Alors, les panneaux qui sont installés par Énergie Collective, qui sont d'ailleurs installés par une entreprise spécialisée, mais que vous aidez à installer, si un citoyen ou une collectivité vient vous voir pour proposer une toiture, c'est quoi l'avantage pour lui ?
Alors l'avantage, on va dire, il est déjà. Je botte pas en touche, hein, mais je vais répondre quelque chose qui a pas de prix, la fierté. C'est quelque chose dont on parle pas souvent, mais d'être fier de contribuer soi-même à cette transition énergétique, à cette relocalisation de l'énergie, à cette réappropriation par le citoyen. Ça a pas de prix, cette fierté. C'est pas parce qu'il y a pas d'avantages. Les avantages, ils sont pas énormes. Nous, ce qu'on propose, c'est une location de la toiture. On reverse 5% du montant du produit des ventes de l'électricité au propriétaire du toit. Alors on va dire, mais que deviennent les 95%? Les 95%, c'est l'investissement et c'est le risque que prend la coopérative Énergie Collective de monter des projets et de les mener jusqu'au bout. C'est-à-dire que celui qui va prêter sa toiture, il prend aucun risque financier, il va avoir une petite redevance pendant 20 ans, il va pas avoir d'entretien à faire lui-même, c'est nous qui assurons la maintenance, c'est nous qui assurons la toiture photovoltaïque. Et au bout de 20 ans, on lui propose de lui transférer gratuitement cette toiture. Donc, au bout de 20 ans, elle aura encore un potentiel de production énorme. Il pourra produire à 100% pour lui-même. Mais par contre, il aura la maintenance et l'assurance à prendre. Donc voilà l'avantage. Mais il y a quand même, j'y reviens, cette fierté, parce que moi-même, j'ai pu le proposer sur la toiture de ma copropriété. Eh ben, les copropriétaires, on est, pas tous, il n'y a pas l'unanimité, mais quasiment fiers que sur le toit de notre immeuble, il y ait une production qui permette à l'ensemble de l'immeuble, la journée, quand il fait beau, eh bien de consommer ce qui est produit directement au-dessus. C'est quand même pas mal.
Un immeuble autonome en journée.
En journée.
Grâce aux panneaux.
Oui, parce qu'on est 5 foyers et on produit à peu près l'équivalent pour 5 foyers. Là aussi, on pourra y revenir à quoi ça correspond, parce que les chiffres, les puissances, les kilowatts crêtes, les kilowattheures, etc., ça dit pas grand chose aux gens. Mais quand on met en correspondance avec ce qu'un foyer moyen consomme, là, ça devient intéressant.
Justement, allons-y sur les chiffres. Alors, c'est surface de panneaux solaires que vous installez. Alors, vous avez une surface type que vous recherchez, c'est plus c'est grand, mieux c'est. Comment ça se passe?
Plus c'est grand, mieux c'est. Oui, il faut déjà les trouver, les grandes, et après on change de législation, c'est-à-dire que jusqu'à une puissance de 100 kilos, on peut arriver à installer nous-mêmes. Sinon, il faut passer par des appels d'offres de la commission de régulation de l'énergie ou de l'électricité, je ne me rappelle plus, j'ai un petit trou de mémoire. Donc, sur des petites toitures, comme je disais, de 50 mètres carrés, parce que ça signifie quelque chose pour le public. 50 mètres carrés, c'est une puissance de 9 kilos. On arrive à avoir des tarifs où on peut équilibrer encore l'investissement, mais c'est plus intéressant si c'est plus grand. Sur la toiture de la Baratonne, qui fait à peu près, je vais dire 150 mètres carrés comme ça de mémoire, là c'est plus équilibré pour nous. Bon, si on met un échafaudage, qu'on le mette pour une toiture de 50 mètres carrés ou 150 150 mètres carrés, il y a une mise en œuvre sur laquelle on va avoir une économie d'échelle. L'étude, elle est à peu près la même, même si c'est nous qui la faisons, mais c'est du temps passé, c'est du temps consacré, etc. Donc on cherche plutôt des toitures de moyenne taille, mais si un particulier a une toiture de 50 mètres carrés utilisable, on est partant pour l'étudier, en tout cas, selon l'orientation. Il nous faut une orientation évidemment la plus idéale possible, plutôt entre le sud-est et le sud-ouest. Si elle est sud, c'est encore mieux. Mais après, ça va dépendre de sa pente. La pente, c'est bien qu'elle soit entre 25 et 45 degrés. 30 degrés tournés vers le sud, c'est l'idéal.
D'accord.
Voilà. Mais on a déjà fait des toitures qui avaient un petit peu moins de caractéristiques comme ça. Mais alors, il faut aussi qu'il n'y ait pas des masques, qu'il n'y ait pas une rangée d'arbres qui fasse de l'ombre une partie de la journée. Il faut pas qu'il y ait d'amiante dans la toiture, comme je l'ai dit. Il faut que la charpente soit en bon état aussi et qu'elle puisse supporter ce poids de panneau qui est pas énorme, parce que dans nos régions où on a le poids de la neige, normalement les charpentes ne pose pas de problème, mais il faut qu'elle soit en bon état.
Alors, ces 9 kWh produits par une surface d'une cinquantaine de mètres carrés, ça correspond à quoi pour se faire une idée ?
Alors, ramener à cette échelle-là, ça va pas être suffisamment signifiant, mais par exemple, je vais vous dire, en 2017, donc pour toute l'année 2017, du 1er janvier au 31 décembre, et bien que des toitures avaient été mises en service, il y en avait trois qui ont fonctionné toute l'année, une a été mise en service de mémoire en avril, et l'autre à l'automne, octobre ou novembre, donc pas une année complète pour les cinq, on a produit 75 MWh d'électricité. Ça dit pas grand-chose. Par contre, si je dis que ça fait l'équivalent de la consommation hors chauffage de 22 foyers, là, ça devient intéressant. Et dans les projets que nous avons, donc maintenant les 5, elles vont tourner toute l'année 2018. Il y en a 2 qui ont été mises en service en juillet. On espère en mettre une en service à la fin de cette année, voire le début de l'année prochaine. Mais avec nos projets d'aller jusqu'à 10 toitures, on a le potentiel pour arriver à la consommation de plus de 60 foyers. Alors c'est des foyers, c'est pas des personnes. 60 foyers, on va dire, si on multiplie par 2,5, on va arriver à 150, 160 personnes à peu près de tête. Hein, je vais assez vite, et à la radio c'est pas simple d'aller vite comme ça en même temps. Mais on a 180 souscripteurs qui vont avoir contribué à fournir l'électricité à peu près 150 personnes. Donc c'est pas mal comme équilibre quand même. Et puis ça progressera, et un jour on aura une correspondance de bien plus de foyers et de personnes bénéficiaires.
Alors, dans ce contexte donc de transition énergétique, pour l'instant, Énergie Collective s'est plus concentré sur la production d'énergie renouvelable par panneaux photovoltaïques, mais vous souhaitez engager une réflexion plus importante sur le thème de la sobriété. Quelle forme ça va prendre cette réflexion ?
Alors, on en est au-delà de la réflexion. On avait commencé, j'allais dire presque bien avant, et les précurseurs, les fondateurs de l'association avaient déjà réfléchi bien avant. Le plus dur, c'est de trouver des actions concrètes. Mais des actions concrètes, il y en a déjà eu. Il y a déjà eu, par exemple, Énergie Collective a coproduit un petit film, je dis un petit film par la durée parce qu'il fait 9 minutes, mais un grand film par son contenu, qui s'appelle 1 kWh facile à consommer mais à produire, point d'interrogation, donc a été réalisé par les élèves d'une classe de l'école Cézanne d'Embrun, grâce à une enseignante qui faisait partie aussi du conseil d'administration, Karine Goninet, pour ne pas la nommer, parce que c'est tellement extraordinaire le travail qu'elle a fait. Ce film est regardé, cité, je vais dire dans toute la France, parce que je vais à des réunions dans pas mal de régions. Et ce film, souvent, j'ai la surprise qu'on en parle sans même que les gens sachent que je sais d'où il vient. Voilà. Donc, il y a déjà eu ce film. Il y a eu des formations qui ont été mises en place au niveau d'Énergie Collective avec quelques dizaines de bénéficiaires pour que les gens soient plus attentifs à leur consommation et rentrent chez eux avec des tuyaux, on va dire, pour que le frigo consomme moins, que dans la vie pratique, ils y soient très sensibles. Mais pour l'instant, on peut pas considérer que c'est un gros, que ça fait le poids, quoi. Alors maintenant qu'on voudrait achever notre deuxième tranche de toiture photovoltaïque, on va dès l'automne engager vraiment plus qu'une réflexion, mettre en place des actions, réfléchir tous ensemble. Donc on va avoir une journée de réunion de tous les coopérateurs le 24 novembre. À cette occasion, on va pouvoir inaugurer les deux toitures photovoltaïques mises en service à Baratier. et avec une table ronde et un intervenant extérieur qui connaît très très bien ce milieu, on va essayer de réfléchir à trouver concrètement, comme ça se fait dans d'autres régions de France, comme un concours de famille par exemple, en partant d'un constat de consommation sur un instant, enfin sur une durée comme l'hiver par exemple, et de voir l'année suivante, sur la même période, qu'est-ce qu'on peut gagner. Beaucoup de familles arrivent à gagner 200 euros sur un hiver. Donc ça va peut-être être les actions qu'on va retenir. En tout cas, nous, on va se consacrer maintenant. Nos réunions vont être beaucoup à partir de la commission économie d'énergie et avec des débats internes inévitables.
Donc ce rendez-vous, ce sera le 24 novembre pour l'inauguration des deux nouvelles centrales construites en juillet à Baratier. Merci beaucoup, Jackie Houdouin, d'être venu à la RAM nous parler d'énergie collective. On vous souhaite une bonne continuation.
Eh ben, merci beaucoup, puis bienvenue à tous ceux qui voudraient nous rejoindre d'une manière ou d'une autre.